Bienvenue au balado du programme Élise. Le thème de cet épisode, Adolescence cours 101. Je suis Caroline Apotelose, agente de développement à Boscoville et je reçois Benoît Maringuer, neuropsychologue et auteur.
Merci Caroline, merci à Boscoville pour l'organisation.
Merci Benoît d'avoir accepté notre invitation. Ta formation de neuropsychologue et ton expérience auprès des jeunes pourront certainement nous apporter un éclairage intéressant sur cette période qu'est l'adolescence. Ton dernier livre, De l'opposition à la communication, Entendre et comprendre vraiment vos enfants et vos adolescents, sorti aux éditions Midi 30, aborde ce sujet. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire sur cette période qu'est l'adolescence de manière générale?
Écoute, Caroline, l'adolescence est une période de transition marquée par un gain en autonomie. Et c'est ça l'enjeu de l'adolescent, c'est gagner en autonomie par rapport à ses parents. Si on y pense, là, l'enfance est une période où le jeune est dépendant de ses parents pendant une longue période. Il y en a une autre période de gain en autonomie qui est juste avant, qui est la période de la petite enfance de 0 à 5 ans. C'est là que le tout petit va commencer à apprendre à se déplacer seul, à communiquer seul, à manger seul et qui va se différencier de ses parents. Donc, il y a un grand gain en autonomie. Et d'ailleurs, c'est la première période d'opposition qu'on a dans cette phase-là, 0-5 ans. Et on a un retour vers la période de l'adolescence, à une autre période de gain en autonomie. Une autre période où le jeune va tenter de se différencier de ses parents, être une personne à part entière et un petit peu briser les liens pour devenir, et c'est là que ça s'en va un ado, devenir un adulte qui éventuellement devrait être complètement autonome, là, sans ses parents, dans une maison, avec conjoint-conjointe, un travail. Et c'est ce gain-là en autonomie qui est l'enjeu de l'adolescence.
Tu parles de nombreux changements durant cette période, et notamment au niveau du cerveau, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau neurologique? Qu'est-ce que ça implique pour l'ado et son parent?
Le cerveau de l'adolescent est en plein changement. Dans cette période-là, on a vu avec des scans au niveau du cerveau, par des études, qu'il n'y a aucune période à travers la vie où les émotions seront aussi activées dans le cerveau. Ni l'enfance, ni l'âge adulte. Maintenant, je te parle d'une autre partie du cerveau qui est la partie frontale, en avant. Cette partie-là s'occupe de la planification, la gestion du risque, par exemple, la capacité à sous-peser les pour et les contre d'une décision de façon rationnelle. Et cette partie-là, qui est en frontale, est sous-développée, donc pas encore à maturité chez l'adolescent, alors qu'évidemment, elle est chez l'adulte. Ce qui nous crée, dans la prise de décision, deux rationnels différents. L'adulte prend sa décision sur la base de son lobe frontal qui, lui, prend des décisions réfléchies, planifiées, sous-pesées, alors que l'adolescent est soumis aux impulsions émotives de son cerveau, ce qui fait que les décisions sont prises sur l'émotion du moment qui prend beaucoup de place dans son cerveau.
On dit qu'à l'adolescence, au niveau du cerveau, les connexions qui se passent entre les neurones se raffinent. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus là-dessus?
Absolument. Écoute, pendant l'enfance, le cerveau crée des connexions. Plus l'enfant apprend, plus les neurones créent des connexions entre eux. À l'adolescence, le cerveau fait le contraire. Il élimine des connexions. C'est pour ça que notre enfant qui avait un si beau vocabulaire à l'adolescence commence à parler avec un seul mot pour répondre à nos questions. Ben non, je blague. En fait, ce qui se passe quand le cerveau raffine ses connexions, c'est qu'il garde les chemins efficaces pour transmettre l'information et il élimine les petits chemins de campagne. Ceux qui sont moins efficaces, c'est par lesquels l'information prend des détours. Ça rend le cerveau de notre ado beaucoup plus performant, plus efficace, et ça fait apparaître un nouveau mode de pensée chez l'adolescent, qui est la pensée formelle. Et cette pensée-là permet le jugement de valeur et les opinions, ce que l'enfant n'a pas et que l'adolescent développe, avoir des valeurs et des opinions.
Tu nous parles de l'adolescent qui va nous répondre avec un seul mot. Parfois, en tant que parent, on a l'impression que notre ado ne s'intéresse plus à rien, il participe moins à la maison, il va passer sa journée avachie dans le canapé. C'est normal, ça?
Ah, la motivation chez les ados, ça, c'est une bonne question que j'aime en parler. L'adolescent, premièrement, sur le plan neurobiologique, est en préservation d'énergie. Son corps change. Il doit grandir, doit fabriquer des os, des muscles, et son corps est en transformation, donc il est en préservation d'énergie. Alors, on le voit un peu moins activé qu'on a pu le voir par le passé. Mais il y a autre chose qui entre en jeu. Dans l'enfance, qu'est-ce qui motive un enfant? Souvent, c'est aller jouer. L'enfant aime jouer. Et tout d'un coup, l'adolescent ne joue plus. C'est plus quelque chose qui le motive. Alors, il remplace ça par quoi? Et c'est ça qu'il recherche. Il est à la recherche de quelque chose d'autre. Il n'a pas toujours trouvé ce quelque chose d'autre-là pour le motiver. Pourquoi il ne l'a pas trouvé? Parce qu'il est en construction de son identité, l'adolescent. Il se regarde dans le miroir, il ne se reconnaît même plus lui-même. Il ne sait plus s'il est grand, s'il est petit, s'il a de la barbe, s'il n'y en a pas. Et cette identité-là, ben, détermine ce qu'on aime dans la vie. Et si on est grand, ça se peut qu'on se dise hey, « je suis bon au basketball, je vais jouer à ça ». Alors, on se crée une identité basée, en fait, des activités ou des loisirs ou des plaisirs basés sur l'identité. Ce que l'ado est en train de se construire. Mais lorsqu'il l'a trouvé, l'adolescent, son identité et ce qu'il aime, et qui n'est pas nécessairement ce qu'il a l'impression que ses parents veulent qu'il aime. Hein? Le jeune qui a toujours été bon au hockey, il arrive à l'adolescence, puis tout d'un coup, il n'a plus envie de jouer parce qu'il a l'impression que c'est le sport que ses parents voulaient qu'il fasse. Le jeune qui faisait du piano ne veut plus en faire, tout d'un coup. Il a l'impression que c'est la demande de ses parents. Mais lorsque l'ado trouve ce que lui, il aime puis qu'il a envie de faire, on tombe souvent dans du tout ou rien. Là, on était dans le rien, on va tomber dans le tout. Alors, l'adolescent qui va se mettre à se passionné pour un sport, une activité, un groupe de musique, un art, un loisir. Donc, il embarque là, all in, comme on dit.
Vraiment intéressant. Merci, Benoît. On voit que le cerveau de l'adolescent évolue beaucoup, la pensée de l'adolescent se modifie. Qu'est-ce que ça va changer au niveau de la relation avec son parent?
En effet, la pensée de l'adolescent change. On a parlé du développement de valeurs et d'opinions chez l'adolescent, ce qui fait qu'il va remettre en question les demandes du parent, ce que l'enfant ne faisait pas. Alors, si je donne l'exemple, l'enfant qui va faire son devoir de mathématiques et qu'on veut aller aider chez un enfant, là, pas un adolescent, l'enfant va nous dire « c'est pas comme ça que le professeur me l'a montré, je dois le faire comme le professeur me l'a montré ». L'adolescent, au contraire, va dire « non ». C'est bien niaiseux la façon que le professeur me l'a montré. Il y a une façon bien plus simple de le faire. Alors, on a ce changement-là où l'enfant applique ce qu'on lui dit, surtout s'il fait confiance au modèle de l'adulte, là, applique ce qu'on lui dit, alors que l'adolescent remet en question et utilise son jugement. Ce qui crée, évidemment, des confrontations, parfois, avec l'adulte.
Alors, comment est-ce qu'on s'y prend en tant que parent pour arriver à nos fins?
Ben voilà. Alors que chez un enfant, on va plutôt vouloir imposer nos décisions, des fois user de stratagèmes pour faire suivre l'enfant là, dans nos demandes, chez l'adolescent, on va devoir entrer dans une part de négociation. On le fait pas chez l'enfant parce que la négociation est pas rationnelle. Hein? L'enfant va nous dire « je veux tel jouet parce que tous mes amis ont ce jouet-là ». Évidemment, c'est pas rationnel, c'est pas tous les amis qui l'ont. L'adolescent, lui, devient capable de discussions rationnelles, d'arguments rationnels et d'opinions. Et quand nous, comme parents, on prend une décision, c'est qu'on a sous-pesé des pour et des contre à cette décision-là, l'adolescent pourrait avoir d'autres pour et d'autres contre face à cette situation-là. Et ce qu'on voudrait arriver, c'est avoir une décision à la fin pour laquelle l'ado y trouvera ses pour. Les raisons pour lesquelles il trouve que ça a du sens de suivre cette décision-là, de l'appliquer à sa vie et de s'y conformer, si on veut.
Et concrètement, comment est-ce qu'on s'y prendrait?
Alors, l'adolescent, on le disait tantôt, développe un système de valeurs. Les valeurs lui parlent. Il ne veut pas se faire imposer une règle. Alors, on va essayer de travailler avec les valeurs de notre adolescent. Plutôt que de demander, par exemple, tiens, à partir de maintenant, c'est toi qui sors les poubelles à la maison. C'est toi maintenant qui fais la vaisselle. Là, on impose une règle à laquelle l'ado risque de dire ben, « pourquoi je ferais ça? Pourquoi c'est moi qui fais ça? » Risque de se confronter. On va plutôt parler d'un système de valeurs à la maison. Quelque chose comme « chez nous, l'entraide est importante dans la famille. On est important tout le monde l'un pour l'autre. On travaille fort, les parents, ici, au bien-être de la famille. Puis on a besoin que tu intègres, à l'âge où tu es rendu, cette valeur-là d'entraide dans la famille. » Une des façons d'entraider peut être de faire la vaisselle, tondre le gazon, sortir les poubelles. Laquelle trouves-tu, de quelle façon trouves-tu que tu pourrais collaborer à la famille et à cette valeur d'entraide qu'on a? Et là, il y en a tout un paquet de valeurs qui peuvent exister. On peut demander à un adolescent, tiens, de prendre une douche parce que notre système de valeurs est basé sur la fierté de soi-même. On veut se présenter, on veut être beau. C'est important de se présenter aux autres de belle façon parce que c'est une de nos valeurs. Ou ça peut être le respect de l'autre. On prend une douche parce qu'on ne veut pas imposer à l'autre notre mauvaise odeur de la journée. On pourrait avoir, par exemple, on veut que notre ado se trouve une job cet été. Ça peut être une valeur de travail. On veut enseigner le travail. C'est important le travail. C'est important la persévérance. On pourrait même avoir comme valeur l'implication sociale. Notre société roule parce que tout le monde joue un rôle par des emplois dans cette société-là. Donc, il y a une espèce d'implication sociale et ça, c'est beaucoup plus prenant et parlant pour l'ado, la valeur qui est derrière notre demande.
C'est vraiment intéressant. On comprend bien que la négociation est importante. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'on doit laisser notre ado décider de tout? Est-ce qu'on doit lui demander son avis à chaque fois qu'on a une décision à prendre?
Ah, Seigneur Caroline, laisse-moi rassurer des parents ici. Alors, non, effectivement, il faut rester comme parent le leader de l'autorité familiale. Il faut rester la personne ou les personnes, les parents, qui vont continuer à mettre un cadre à l'intérieur duquel notre jeune va évoluer. Alors, on va négocier certaines ententes pour lesquelles notre jeune va avoir tendance à s'opposer davantage. Des ententes ou des demandes pour lesquelles le jeune commence à questionner la validité de ces demandes-là, on va commencer à les négocier un petit peu plus et à les expliquer et à avoir, au bout du compte, une entente là, qui est négociée et qui fait du sens pour le jeune. Par contre, on va aussi avoir des demandes qu'on doit laisser, qui doivent rester, qui sont dans l'intérêt là, d'un jeune qui continue à avoir besoin d'un encadrement parental et qu'on va devoir imposer à la maison.
Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples de quelque chose qui se négocie, quelque chose qui ne se négocie pas?
Je pense que je vais revenir aux valeurs, en fait. Puis toutes les demandes qu'on a, il y a une valeur qui est derrière. Et on ne négocie pas les valeurs qui sont importantes pour nous à la maison. On ne négociera pas, par exemple, si pour nous le respect est une valeur importante entre les membres de la famille. Une valeur, c'est quelque chose qu'on a et qu'on ne veut pas négocier. Et notre jeune qui va manquer de respect, qui va insulter le parent ou son frère, sa sœur, c'est quelque chose qu'on va vouloir cadrer, sur quoi on va vouloir revenir. Une des conséquences là, que les ados n'aiment pas, là, c'est de s'asseoir avec et leur faire la morale. Et ça a l'air de rien, là, on ne les met pas dans le coin et on ne va pas leur retirer des privilèges nécessairement, là, mais s'asseoir dans le coin, dans le salon, là, puis faire la morale à notre jeune. Et ça, on peut le faire aussi souvent qu'il va insulter son petit frère, par exemple, et que l'interaction ne sera pas agréable. On va dire, OK, non, ça, chez nous, ça ne passe pas. Le respect est important à la maison. Viens t'asseoir, on va en parler du respect. Et là, on a un petit discours moralisateur sur l'importance entre deux personnes d'avoir ce respect mutuel, l'importance que ça a un frère, qu'il va l'avoir toute sa vie, l'importance que la famille a, l'équipe qu'on doit être en tant que famille pour se supporter chacun. Et on a ce discours-là pendant 5-10 minutes. Et si ça recommence le lendemain, on a le même discours. Et c'est ça notre punition. On s'assoit et on fait la morale.
Donc, ramener les valeurs sur le devant. Donc, des valeurs qui ne se négocient pas.
J'invite également les parents qui se demandent un peu de quoi je parle quand je parle de valeurs comme ça ou comment attribuer une valeur derrière leur demande. Peut-être le googler sur Internet et trouver, vous allez trouver des tableaux avec toutes les valeurs qu'on peut avoir. Vous allez faire des liens avec vos demandes. Vous allez vous dire, oui, c'est pour telle valeur que je demande quelque chose à mon jeune. Vous pouvez trouver ce tableau-là aussi dans mon livre de l'opposition à la communication que j'ai fait et où je discute là, de l'importance des valeurs à l'adolescence.
Tu nous parles de l'importance des valeurs et il me semble aussi dans ton livre que tu parles de l'autorité légitime. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus là-dessus?
Un concept super important, l'autorité légitime. Puis là, je vais faire un détour par la psychologie d'entreprise. Il a été étudié dans des grandes entreprises. Qu'est-ce qui fait d'un chef d'équipe un bon chef d'équipe? Puis c'est quoi un bon chef d'équipe? C'est quelqu'un que les employés ont envie de suivre, ont envie de respecter ses demandes, même s'il n'est pas là pour surveiller ce qu'ils font, les employés, même si le chef n'est pas là pour les punir s'ils ne font pas la bonne chose, qu'ils vont le faire parce qu'ils ont confiance en leur leader, puis ont confiance que les demandes sont les bonnes pour eux ou pour l'équipe dans laquelle ils travaillent. Alors, je ramène ça à la famille maintenant. Comme parent, vous êtes ce leader d'équipe et l'équipe, c'est la famille. Alors, comme leader d'équipe, ce que vous voulez installer, c'est cette autorité légitime que je viens de décrire chez le leader en entreprise, que vous voulez installer à la maison. Ce ne serait pas le rêve, ça, hein, que nos jeunes suivent nos demandes, même si on n'est pas là pour surveiller ce qu'ils font, parce qu'à l'adolescence, on n'est plus toujours là. Même si on n'est pas là pour surveiller ce qu'ils font, et même si on n'installe pas une conséquence, même s'ils n'ont pas peur de la punition, ils vont suivre quand même nos règles. Puis pour ça, ben, j'établis une liste de critères de ce qu'est ce qui permet à un parent d'avoir une autorité légitime. J'en nomme quelques-uns un peu pour guider les parents. Être présent et investi avec notre jeune. Je disais tantôt qu'il peut embarquer sur des passions. Ben, comme parent, même si vous ne connaissez rien à ça, un groupe de musique rap, ben, intéressez-vous à ce groupe-là. C'est qui le chanteur? C'est quoi sa vie? Et parlez-en avec votre jeune. Votre jeune se met à triper sur le basket. Commencez à suivre la NBA un petit peu. Connaissez les stars et les joueurs qui font triper et qui sont des modèles pour votre jeune. Valorisez l'autonomie, responsabilisez, rendre plus fort l'adolescent. C'est ça qu'il veut, l'adolescent, gagner en autonomie. Prenez les devants comme parent. Donnez-lui-en un petit peu plus d'autonomie. Permettez-lui d'aller quelque part, par exemple, en transport en commun, où il va lui-même trouver son trajet et son chemin, et waouh, on va féliciter l'autonomie qu'il va avoir gagnée. Comme parent, être un modèle également avec notre jeune, que le jeune nous regarde comme parent et fasse voir, j'ai envie d'être comme ça un jour. Puis comment être un modèle? Ben, parler de nos bons coups avec les jeunes, parler de ce qu'on fait de bien au travail, parler de nos bons coups si on a un bon, nous-mêmes, si on est dans une ligue de bière de hockey, ben, parler de nos bons coups dans notre game de hockey. Communiquer avec le jeune, faire de la famille une équipe, que le jeune se sente impliqué dans l'équipe qu'est la famille, puis qu'il en fasse partie. Et rendre l'environnement familial cool puis le fun est quelque chose qui favorise une autorité légitime. Si le jeune sent que son parent, grâce à lui, hey, c'est le fun à la maison. Il prend des décisions qui ne me plaisent pas tout le temps, mais c'est cool d'être à la maison, c'est le fun. Donc, organisez des sorties qui vont plaire aux jeunes. Faites des blagues, faites un peu de folie à la maison. Sortez des sentiers battus. Ben, on va avoir là des bases d'une autorité que le jeune va avoir envie de suivre. Pas parce qu'il est obligé, mais parce qu'il en a confiance à cette autorité-là.
Donc, si je résume un peu, ce que je comprends, c'est que la communication est au cœur de tout ça. S'intéresser à son jeune, établir un lien, une relation, vraiment quelque chose de fondamental.
Tellement, tellement, parce que... Et en fait, tout au long de la vie, avec tout le monde, la communication est importante, mais tellement avec un adolescent qui va avoir tendance à se replier, à se refermer, à avoir des opinions qui diffèrent des nôtres et avoir des valeurs qui commencent à différer des nôtres comme parents. La communication permet de rester ouvert à ces nouvelles opinions qui apparaissent chez notre jeune, ces nouvelles valeurs qui apparaissent, et les entendre avec ouverture et entendre sans jugement qu'est-ce que notre jeune pense et qu'est-ce qui est de sa génération et qu'est-ce qui sont ses croyances à ce jeune-là auxquelles il adhère parce qu'elles font partie de sa génération. Donc, être présent, en parler avec ouverture avec notre jeune.
Et qu'est-ce qu'on fait avec l'adolescent qui décide de défier nos règles, notre autorité ou qui devient irrespectueux?
Écoute, il y a deux choses dans ta question, Caroline. Défier les règles et notre autorité, on se l'est dit, ça fait partie de l'adolescence. Il faut le recevoir, il faut être capable de l'entendre, puis il faut être capable de discuter avec notre jeune. Il faut même s'attendre que certaines de nos règles seront brisées et parfois, si c'est fait dans un contexte où le jeune reste en sécurité, là, ben de fermer les yeux sur certaines règles qui ont été brisées. Parce que ça fait partie de l'adolescence de briser des liens, briser des règles, prendre une autonomie et vivre des expériences d'adolescent. La prise de risque également fait partie de l'adolescence et est très insécurisante pour un parent. L'adolescent va briser des règles, il va prendre des risques qui n'ont pas de sens pour un parent. Il faut tolérer ça, c'est ce qui permet à notre jeune de prendre des risques, des fois de se casser le nez, figurativement, et d'apprendre par ses risques et par ses erreurs qu'il a fait. Mais il y avait une autre chose dans ta question qui était le manque de respect. Le manque de respect, pour moi, c'est une ligne, c'est là que je trace la ligne. Le jeune peut défier l'autorité, peut remettre en question des demandes, peut questionner pourquoi telle demande est là, il peut être pas content, il peut même se fâcher, être déçu et manifester de la déception. Il a droit à tout ça, il a droit à ses émotions. là où ça doit s'arrêter, c'est le manque de respect. Puis le manque de respect se définit par insulter, injurier, frapper, viser à blesser physiquement ou psychologiquement quelqu'un, donc les parents ou un frère ou une sœur à la maison. Donc, le manque de respect est là où je trace la ligne et c'est là que le parent devrait recadrer son jeune et dire « ça ici, c'est pas toléré, ça, on n'accepte pas ça à la maison » et mettre sa ligne clairement à cet endroit-là.
On revient encore une fois à la notion de valeur qui est très importante au sein de la famille.
Voilà, et peut-être que cette valeur-là est importante pour moi, justement. C'est pour ça que je la souligne à ce point. Mais je pense que pour que nos familles fonctionnent, c'est tellement important la famille, c'est tellement beau l'équipe qu'est la famille. Et ça durera bien au-delà de l'adolescence, la famille. Alors, il faut la préserver. Il ne faut pas que l'adolescence brise des choses à long terme au sein de cette famille-là.
On a abordé plusieurs sujets vraiment pertinents jusqu'à maintenant. Avant de conclure, j'aimerais qu'on parle des messages importants, des messages essentiels que tu voudrais que les parents retiennent.
Alors, les messages à ramener à la maison. L'adolescent est en quête d'autonomie, c'est ça son enjeu. Alors, les parents, travaillez avec ce besoin d'autonomie. Parfois, aller un petit peu au-devant du besoin d'autonomie pour en donner un peu plus d'autonomie aux jeunes qui en demandent. Associer l'autonomie avec la prise de responsabilité. Alors, parfois, on laissera notre jeune rentrer plus tard le soir. Voici l'autonomie. La responsabilité, c'est de rentrer précisément à l'heure demandée et peut-être même de nous envoyer 2 textos dans la soirée pour nous dire qu'il est en sécurité. On associe donc l'autonomie et la responsabilité. Autre message à ramener à la maison, soyez présent. Intéressez-vous à ce que votre jeune aime, même si ça ne fait pas partie de votre monde d'adulte. Soyez impliqué. Et notre jeune a besoin d'être écouté, entendu et validé dans ce qu'il vit, dans ce qu'il ressent et dans ses opinions. Même si on n'est pas d'accord avec ce qu'un enfant ou un adolescent vit et pense, on peut le valider et dire que ça a du sens. C'est ce que le jeune a besoin d'entendre.
Merci Benoît Maringuer, neuropsychologue, d'avoir partagé avec nous ce cours 101 sur l'adolescence.
Merci de l'invitation aujourd'hui, Caroline. Je lance l'invitation aux parents s'ils sont intéressés à avoir plus d'informations, à consulter notre site web www.cerc-neuropsy.com. Nous avons 3 cliniques offrant des services en neuropsychologie, psychologie aux adolescents, enfants et adultes également. On offre également des services de psychoéducation, orthopédagogie. J'ai également 2 livres, L'opposition, ces enfants qui vous en font voir de toutes les couleurs, ainsi que « De l'opposition à la communication », 2 livres où vous allez retrouver l'essence de mon message d'aujourd'hui pour ceux qui aimeraient en savoir plus.
Si vous voulez plus d'informations sur l'adolescence et ses enjeux, consultez les différentes thématiques et modalités du programme ELIS. Merci d'avoir été avec nous.
Ce balado a été créé dans le cadre du programme ELIS, destiné à soutenir les parents d'adolescentes et d'adolescents âgés de 12 à 17 ans. Ce programme a été développé par Boscoville en partenariat avec la Direction de la santé publique de Montréal, le réseau Réussite Montréal et la chercheure associée Marie-Ève Clément de l'Université du Québec en Outaouais.
Phonique. Le fin son de l'histoire.